quoi ça vous fait penser? Formidable, vous êtes vraiment très fort. Célia me l'a tout de suite dit quand je lui ai donné le PowerPoint. Une réunion Tupperware. Voilà quelques principes pour vivre une bonne réunion Tupperware. Pas que j'en ai vécu moi-même une réunion Tupperware, hein, je vous rassure s'il y a besoin de vous rassurer. Mais quelques principes que j'ai glanés sur Internet. Voilà ce qui est dit. Avoir une rencontre dynamique, joyeuse, en faisant passer sa bonne humeur. Se rencontrer entre amis ou connaissances proches. Réaliser des plats, des choses tous ensemble. Prévoir un petit cadeau pour chacun. Et ne pas forcer à l'achat. Ce matin, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble sur un thème qui, au premier abord, va peut-être vous sembler étrange, voire même carrément ridicule. Mais pourtant, c'est tout à fait sérieux, je vous le garantis. Est-ce que ma manière de voir l'Église ressemble à une réunion Tupperware? Est-ce que je vois l'Église comme une sorte de réunion Tupperware? Après tout, ça pourrait l'être. On a une rencontre dynamique ce matin, culte sympa. Je pourrais même essayer de vous faire sourire. Je crois que j'ai déjà réussi pour certains durant ma prédication. Pourquoi pas? On est rassemblés avec des personnes qu'on connaît, certaines plus que d'autres, c'est vrai. En plus, c'est gratuit. On ne vous force pas à l'achat ce matin. Vous n'avez aucune obligation de donner quelque chose au moment de l'offrande. Et vous pouvez venir comme vous êtes et ne pas revenir avant 2 ou 3 mois, voire plus jamais. C'est gratuit. Mais est-ce que c'est ça, vivre l'Église? Une sorte de réunion Tupperware spiritualisée. En pratique, ça veut dire quoi, pour moi, pour toi, de vivre l'Église? Je dis que je fais partie de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble. C'est ce que j'affirme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique de dire cela? En pratique, qu'est-ce que je veux dire par là? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous laisse 4 aspects de ce que signifie réellement vivre l'Église. Dans 2 versets qu'on trouve au milieu de sa lettre, et à travers ce très court passage ce matin, je veux qu'on réfléchisse ensemble de ce que ça signifie justement vivre l'Église. Que veut dire vivre l'Église aujourd'hui encore dans notre Église, dans notre Assemblée? Et je vous propose donc de lire ensemble avec moi Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. 2 versets simplement. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Ce passage nous recommande d'abord de veiller les uns sur les autres, ou dans d'autres traductions, de prendre garde les uns aux autres. Alors, dans notre société actuelle très individualiste, le fait de veiller sur quelqu'un ne va pas de soi. Loin de là. On pourrait facilement prendre ça pour de l'ingérence, voire même peut-être du voyeurisme. Après tout, je suis adulte, vacciné, tout ce qui va bien, indépendant. Pourquoi j'aurais besoin que quelqu'un me surveille? C'est une erreur. Ce verset ne nous demande pas de surveiller, mais de veiller sur. Et c'est toute la différence. Ce n'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas d'épier, de contrôler, mais de prendre soin, de se soucier. Il ne s'agit pas de trouver la bonne occasion pour coincer son frère ou sa sœur et le mettre mal à l'aise, voire pour faire du commérage peut-être. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Non, c'est d'être présent pour soutenir, pour aider, et peut-être il est vrai parfois pour condamner le péché dans la vie d'un frère ou d'une sœur, mais pas pour le mettre plus bas que terre, mais pour que face à cette condamnation de son péché, il puisse se relever et rétablir sa relation avec Dieu, sa relation dans l'Église. Nous ne sommes pas là, bref, nous ne sommes pas là pour flinguer à tour de bras, mais pour apporter des soins, veiller sur. Veiller les uns sur les autres, n'est qu'un aspect parmi beaucoup d'autres de ce que la Bible nous demande de faire les uns pour les autres. L'expression « les uns les autres » revient 50aine de fois dans la Bible. Si on enlève certaines répétitions, par exemple « aimez-vous les uns les autres » revient une dizaine de fois dans le Nouveau Testament, si on enlève ces quelques répétitions, on peut distinguer une trentaine de commandements différents qui s'adressent aux uns et aux autres. Une trentaine de commandements différents que nous devons suivre en tant qu'Église. Et je pense qu'il est bon de les revoir déjà, rapidement, parce que ça fait partie de l'ADN de ce qu'est une Église. Si vous voulez vivre une Église, il faut vivre ces commandements que la Bible nous apporte sur les uns et les autres. Mais avant tout, je veux souligner, avant de voir ces commandements, que ces commandements ne s'adressent pas aux six anciens de l'Assemblée. Ces commandements ne s'adressent pas aux chrétiens d'un certain âge. Ils ne s'adressent pas à ceux qui ont suivi tel ou tel parcours théologique. Ils ne s'adressent pas à ceux qui ont une plus grosse Bible que les autres ce matin, voire à ceux qui ont une Bible, parce que peut-être certains n'en ont pas. Non. Ces commandements s'adressent aux uns et aux autres. Donc à tout le monde, à chacun. À partir du moment où je dis que j'appartiens à une église, à une assemblée, ces commandements s'adressent à moi. Et pendant que je vais faire la revue de ces différents commandements, posons-nous simplement la question suivante. Est-ce que c'est ce que nous vivons au sein de notre assemblée? Est-ce que je peux dire que je vis vraiment les uns avec les autres? Vous êtes prêts? Non? Allons-y quand même. Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Édifiez-vous les uns les autres. Peut-être mon préféré. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. Dans le sens de ne pas se blesser, bien entendu. Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Je ne sais pas ce que vous dites quand vous voyez toute cette liste qui nous est demandé à chacun, je vous rappelle. Si vous êtes là ce matin, c'est ce qui vous est demandé, à moi comme à vous. Ce qui est très clair en tout cas, comme le dit Alfred Kuhn dans un livre où il reprend chacun de ses commandements et qu'il a nommé sommairement, enfin sobrement, les uns les autres tout simplement, c'est que, je le cite, « la vie normale du chrétien implique des relations suivies avec les autres membres du corps. Exhortation, instruction, édification mutuelle, support réciproque. La vie chrétienne normale implique des relations suivies avec les autres membres du corps. Et cela demande inévitablement deux mouvements pour chacun d'entre nous, si on veut vraiment vivre les uns pour les autres, si on veut vraiment, réellement vivre l'Église. Premier mouvement, aller vers l'autre. Si je veux exhorter mon frère ou ma sœur, mais il faut d'abord que j'apprenne à le connaître. Si je veux aimer mes frères et mes sœurs, il faut que j'aille les voir, que j'apprenne à connaître leurs besoins, leurs problèmes peut-être, que je leur consacre du temps pour les aider. Et deuxième mouvement, il faut se laisser approcher par les autres aussi. Si mon frère ou ma sœur doit veiller sur moi, alors à un moment donné, je ne peux plus me retrancher derrière l'excuse commode, ce sont mes affaires. On ne touche pas. À un moment donné, je dois laisser l'autre aussi venir vers moi pour vivre cette relation les uns envers les autres. Bref, si nous voulons obéir aux différents impératifs associés à l'expression les uns les autres, nous devrons aller bien plus loin que simplement avoir des relations de bon voisinage ensemble. Vivre l'Église va bien plus loin que de vivre une relation de bon voisinage. Nous ne sommes pas des bons voisins les uns pour les autres. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande bien davantage qu'une relation de bon voisinage. L'auteur poursuit en expliquant pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Il s'agit de nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Au cas où on n'avait pas bien saisi, il le répète au verset 25, « Encourageons-nous mutuellement ». Le mot grec traduit ici par « encourager » a donné le mot « paroxysme » en français. Il signifie donc littéralement ce mot « provoquer, stimuler, inciter, exciter ». Bref, il ne s'agit pas d'un encouragement désabusé d'un supporter dont l'équipe est déjà menée 3-0 à mi-temps, qui dit « allez ». Non, c'est un encouragement puissant, un encouragement fort, intense, plein. Si Dieu nous demande de nous encourager mutuellement, c'est sans doute qu'on en a besoin, et sûrement même. C'est une nécessité. Et plusieurs questions découlent de ce fait. Première question que je vous pose, et que je me pose à moi-même bien sûr. De quand date la dernière fois que j'ai encouragé mon frère ou ma sœur dans mon assemblée? De quand ça date, la dernière fois? On raconte l'histoire d'une course de grenouilles. Je ne vous compare pas à des grenouilles, hein. On va voir. Ne vous inquiétez pas. L'objectif était de monter en haut d'un grand arbre. Et beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir. La course commence ça. Bien vite, ceux qui s'étaient rassemblés ont pensé que ces grenouilles n'arriveraient jamais à atteindre la cime. Et toutes les phrases que l'on entendit furent du genre « Inutile, elles n'y arriveront jamais ». Les grenouilles commencèrent peu à peu à se décourager. Sauf une qui continua de grimper. Les gens continuaient « Vraiment pas la peine, elles n'y arriveront jamais ». Et les grenouilles s'avouèrent vaincues, sauf une qui continuait envers et contre tout. À la fin, toutes abandonnèrent, sauf cette grenouille qui, seule et au prix d'un énorme effort, rejoignit la cime. Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait fait pour terminer l'épreuve malgré tous ses découragements et découvrit qu'elle était, je l'ai entendu, sourde. Elle était sourde. Il faut avouer qu'en France, y compris dans nos églises, malheureusement, souvent on est les spécialistes du découragement. Toujours voir le côté négatif, toujours voir ce qui ne va pas dans les choses. Et parfois, quand on entend certaines choses, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux être sourd. Mais qu'est-ce qui est préférable? Avoir une assemblée de sourds ou avoir une assemblée qui s'encourage mutuellement? Qu'est-ce qui est préférable? De quand date mon dernier encouragement? Autre question, comment je m'y suis pris pour encourager mon frère ou ma sœur dans mon assemblée? Attention, quelqu'un qui encourage ne doit pas toujours avoir un verset à la bouche, simplement. Dès que l'on a une opportunité de parler, placez un verset comme un encouragement. Et yes, j'ai donné mon verset, c'est bon, j'ai encouragé. Au suivant. Non, c'est pas ça, encourager. C'est pas simplement balancer un verset à la figure de quelqu'un en disant « Vas-y, mon frère », et puis non. Ça va bien plus loin, l'encouragement. Autre, troisième et dernière question. À quoi j'ai encouragé mon frère ou ma sœur dans l'assemblée? Et là, le texte précise que nous devons encourager à deux choses. L'amour et la pratique du bien. Et dans l'idée, l'amour est la racine et la pratique du bien, les branches, le feuillage, le fruit. Nous devons donc encourager, exhorter, exciter à l'amour et à la pratique du bien. Et vivre l'Église, c'est aussi vivre des relations d'amour, d'entraide ensemble, bien sûr. Jésus l'a dit lui-même avec force en Jean 13, verset 34 à 35, un verset que je pense beaucoup connaissent. Je vous donne un commandement nouveau. Lequel? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'on reconnaît dans notre assemblée, est-ce qu'on se reconnaît comme des disciples? Est-ce qu'on a de l'amour les uns pour les autres? Pourquoi venons-nous à nos rencontres d'église? Prendre quelques nouvelles, passer un moment agréable? Peut-être, pourquoi pas. Mais l'un des objectifs essentiels de nos rencontres va bien plus loin. John Piper a écrit « L'objectif de la rencontre est précis. Nous nous rencontrons pour obtenir assez de force pour aimer, davantage de ressources pour aimer, plus de motivation pour aimer, une sagesse supplémentaire pour aimer et pratiquer de bonnes œuvres. » L'objectif de nos rencontres devrait être de nous pousser à aimer et à pratiquer le bien en prenant soin les uns des autres. Le but de nos rencontres n'est pas de vivre simplement des relations agréables avec le risque potentiel d'en arriver à une forme de mondanité, de simples relations sociales, comme pour une réunion Tupperware ou une réunion de n'importe quelle association que vous pouvez trouver dans la société actuelle. Non, le but est bien plus élevé. Le but, c'est de vivre des relations d'amour, pleinement. Et si nous aimons véritablement nos frères et nos sœurs, alors nous aurons à cœur leur avancement spirituel. Alors nous aurons à cœur leur progrès dans la foi à travers la pratique du bien qui en découle. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres ? L'auteur de l'Épître poursuit en affirmant « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. » Nous l'avons vu auparavant, nous avons besoin des uns des autres pour veiller l'un sur l'autre, pour nous encourager mutuellement dans la foi. Et c'est dans ce sens qu'il faut prendre cette exhortation de ne pas délaisser nos rencontres. Les destinataires de cette lettre, des chrétiens d'origine juive du 1er siècle, semblent avoir continué à assister aux solennités du culte juif, tout en se rencontrant spécialement entre eux, entre chrétiens. Et c'est donc un très mauvais signe lorsque des chrétiens délaissaient les réunions ou abandonnaient leur assemblée, selon d'autres traductions, pour se contenter du culte au temple ou à la synagogue. Parce que délaisser ces réunions signifie quelque part, pour les destinataires de cette lettre, tourner le dos au christianisme, peu à peu, pour retourner vers le judaïsme. On ne peut donc pas justifier, comme cela a été fait parfois dans certaines églises, à travers ce verset, d'interdire quelqu'un de quitter une église pour rejoindre une autre église. Que sa raison soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas un verset qui permet d'interdire cela. Il s'agit d'un chrétien qui intentionnellement se met en marge de l'église et d'une certaine manière qui fuit l'église. Et aujourd'hui, trop de personnes fuient l'église. Fuir l'église est une erreur grossière. Trop répandu aujourd'hui. Trop de chrétiens vivent aujourd'hui en marge de toute église. Fuir l'église, c'est une erreur, parce que c'est fuir le plan de Dieu pour nous. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, en Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église. » C'est Jésus qui bâtit son église. L'église est intégralement partie du plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Fuir l'église est une erreur parce que c'est fuir la possibilité de donner. Je vous rassure, pas pécuniairement, ce n'est pas l'idée. De donner, de faire du bien à ses frères et sœurs. Fuir l'Église est une erreur car c'est fuir la possibilité de recevoir. Parce que c'est dans l'Église que nous trouvons force, réconfort, nourriture spirituelle. Fuir l'Église, c'est une erreur car c'est fuir la confrontation. La confrontation. La vie dans une Église locale n'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais c'est la meilleure école qui soit. Parce qu'elle nous apprend à travailler en équipe, à valoriser les autres, à nous corriger mutuellement et à grandir ensemble. Comme le dit cette image bien connue, la communauté chrétienne est comme un foyer où brûlent des bûches. Tant qu'elles sont ensemble, elles forment une belle flambée. Mais si on les éloigne les unes des autres, elles finissent par s'éteindre. Fuir l'Église est une erreur. Mais au-delà de tous ceux qui malheureusement fuient l'Église, il y a aussi tous ceux qui font le choix de vivre une vie d'Église semblable à des moines qui auraient fait vœu de silence. Une vie d'Église comme un moine qui a fait vœu de silence. Ils viennent le dimanche matin au culte, chantent des cantiques à côté d'un inconnu auquel ils n'adresseront pas la parole, écoutent une prédication, comme ce matin, puis repartent chez eux. Vœux de silence. Ils n'ont pas délaissé les réunions, mais est-ce qu'ils vivent l'Église pour autant ? Permettez-moi d'en douter fortement au regard de ce que la Bible nous dit sur ce qu'est l'Église réellement et sur ce que signifie vivre l'Église réellement. Nous ne devons pas fuir l'Église, ni faire semblant de vivre l'Église, mais au contraire, persévérer dans notre communion avec Dieu, à travers notre assemblée, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile peut-être. Dernière idée de ce texte, l'auteur conclut par ces mots. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur fait référence au retour de Christ, auquel nous devons nous tenir prêts, comme l'affirme 2 Pierre 3, versets 10 à 13, où Pierre écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui ont été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons. » Il s'agit donc de l'espérance du chrétien, le retour de Christ en gloire. Et c'est au sein de l'Église que cette espérance peut être vécue de la meilleure des manières. Parce que je suis entouré de frères et de sœurs qui vivent la même espérance, qui vivent la même attente. En tout cas, je l'espère. Une question tout de même. Est-ce que nous pouvons affirmer que notre Église vit avec cette espérance dans le cœur? Est-ce que c'est vraiment notre cœur, notre espérance, notre attente impatiente? Malheureusement, trop souvent, il nous arrive d'oublier notre espérance, de mettre de côté le retour de Christ au sein même de l'Église. Trop souvent, il nous arrive de vivre seulement pour ici et maintenant, et pas suffisamment pour là-haut et après. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Nous avons étouffé notre espérance parce que parfois nous créons notre propre paradis sur terre. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Ce sera le sujet, le thème d'une prochaine prédication que je vous apporterai. Mais pour faire simple, il me semble que si nous n'attendons pas le retour de Christ avec plus d'envie, c'est que l'on n'a pas bien compris de quoi il s'agit. C'est qu'on n'a pas bien saisi qu'est-ce qui va se passer, les merveilleuses promesses de Dieu pour nous. Si on croit qu'on s'est créé un petit paradis sur cette terre, là encore, c'est qu'on n'a pas bien compris les promesses extraordinaires de Dieu, des promesses qui défient toute imagination. Le paradis qui nous attend n'a rien à voir avec peut-être le petit paradis qu'on s'est créé ici-bas. C'est quelque chose de complètement extraordinaire. Dans tous les cas, en tout cas, c'est au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée, que nous pourrons le mieux vivre cette espérance ensemble, parce que nous serons soutenus, aidés à patienter en attendant le jour du Seigneur, en attendant son retour glorieux. En conclusion, nous avons vu ensemble que vivre l'Église, cela signifie vivre les uns avec les autres. C'est vivre l'encouragement, vivre la persévérance et vivre l'espérance. Ça pourrait être encore bien d'autres choses, mais c'est quatre points essentiels déjà. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment vivre aujourd'hui cela dans notre Église, dans l'Église chrétienne évangélique de Grenoble? Comment je peux vivre les uns les autres, l'encouragement, la persévérance et l'espérance? Comment je peux vivre cela? Je pense que nous avons tous fait un constat, le même constat. L'assistance au culte le dimanche matin a augmenté ces dernières années de façon très forte. Et c'est une bénédiction, c'est une belle chose. Nous sommes de plus en plus nombreux. Mais avec les anciens, notre préoccupation principale est que cette croissance numérique, à travers l'assistance du culte du dimanche matin, s'accompagne aussi d'une croissance spirituelle, que le numérique et le spirituel aillent ensemble. Nous voulons que tous ceux et toutes celles qui assistent à nos cultes ne se contentent pas de chauffer une place le dimanche matin sur un banc, mais que chacun puisse vivre réellement l'Église, telle que le Nouveau Testament, telle que la Bible enseigne qu'il faut vivre l'Église. Avec les anciens, il nous semble de plus en plus difficile, voire même presque impossible, de vivre l'Église en se contentant du culte du dimanche matin. car nous sommes tellement nombreux qu'il est difficile de vivre à plus de 200 tout ce que je viens d'évoquer ce matin. C'est difficile, compliqué. Et notre assemblée a grandi, et il faut donc apporter une réponse adéquate pour que chacun puisse encore une fois réellement vivre l'Église. Quelle réponse apporter à cela ? En réfléchissant avec le groupe d'anciens, il nous a semblé que la réponse la plus pertinente à notre souci, à ce souci de croissance spirituelle, de vivre réellement l'Église aujourd'hui encore, passait par quelque chose en fait qui existe déjà dans notre assemblée, mais sur lequel nous voulons mettre le focus cette année 2018. Il s'agit des rencontres en petits groupes, des rencontres de groupes de quartier qu'on appelle. Nous voyons ces groupes au niveau des anciens comme des sortes de mini-rassemblements d'églises, on va dire, où on peut vivre une proximité de relations, où on peut vivre des encouragements, des prières, du soutien à une dizaine de personnes réunies ensemble qu'on a plus de mal à vivre aujourd'hui lorsqu'on est plus de 200 au culte. Et nous avons donc décidé avec les anciens de mettre l'accent tout particulièrement sur les groupes de quartier cette année, pour répondre à ce besoin d'accompagnement, pour répondre à ce besoin de croissance spirituelle en même temps que la croissance numérique. Et pour cela, nous avons pris quelques décisions. Nous allons d'abord diminuer le nombre de rencontres de semaine au sein de l'Église, au sein des locaux de l'Église, pour augmenter le nombre de rencontres de groupes de quartier. Auparavant, nous avions 2 rencontres par mois dans les groupes de quartier. Maintenant, nous allons délocaliser, si on peut dire, la soirée de louange et prière qui se passait dans ces locaux pour avoir cette soirée, un temps de louange et prière dans nos groupes de quartier. Parce qu'il nous semble que c'est dans nos groupes de quartier que nous pouvons vivre plus facilement cela. Donc nous aurons 2 ou 3 rencontres par mois dans les groupes de quartier qui seront mis en avant. Et uniquement une fois par mois, dans le cadre du local de l'église, les études bibliques ou les cours du soir pour chacun d'entre nous. Mais nous voulons maintenant vraiment mettre l'accent sur toutes les rencontres de semaine en petits groupes, parce que nous avons, il nous semble, un impact plus important. Dieu touche les cœurs d'une manière différente dans un petit groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes que quand on en est plus de 200, parce qu'on ne peut pas vivre avec tous facilement. Je vous mets au défi de me citer le prénom de tous ceux qui sont réunis aujourd'hui. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas sûr que quelqu'un soit capable ce matin de le faire. Dans un groupe de quartier, à une dizaine, une quinzaine de personnes, ce sera possible. Nous pourrons nous connaître les uns les autres. Nous pourrons nous encourager parce que nous nous connaissons. Nous pourrons prier les uns pour les autres. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans une assemblée de plus de 200 personnes. Nous avons aussi décidé d'accompagner la croissance numérique dans notre église en augmentant le nombre de groupes de quartier durant le cours de l'année. Nous voulons, il y a actuellement 5 groupes, nous voulons ouvrir peut-être 1 ou 2 groupes supplémentaires en cours d'année pour que ces groupes restent à taille humaine de 10-15 personnes maximum. Parce que c'est ainsi que nous pourrons vraiment avoir des relations et vivre l'Église pleinement. Alors peut-être que vous n'êtes jamais allé dans un groupe de quartier et que vous n'en voyez peut-être même pas l'utilité. Mais pour vous aider à en percevoir un peu plus du groupe de quartier et de l'utilité des bienfaits de ce groupe, j'ai demandé à Michel Bariol d'abord et ensuite à Louise et Magali de vous donner un court témoignage de ce qu'ils ont pu vivre dans les groupes de quartier, de voir les bienfaits que ça a pu être pour eux et les bénédictions que ça a pu être pour eux et l'utilité que ça a pu être pour leur cœur. Et donc je vais laisser d'abord Michel donner un témoignage, un court témoignage, et ensuite Louise et Mag, et puis après je conclurai. Merci à tous les 3.
Merci Stéphane, bonjour à tous. Oui, c'est une occasion pour moi en effet de pouvoir témoigner brièvement sur la vie de notre groupe de quartier, de tout ce que ça a pu, oui en effet, de tout ce que je peux en retirer à titre personnel. Alors moi ce que je vois, c'est d'abord je trouve que c'est un privilège et on le dit tous, c'est un privilège, donc on va tous le dire là encore ce matin. En même temps, moi je pense qu'il faut aussi dire c'est une lutte. C'est une lutte parce que nous, par exemple, le groupe de quartier a lieu le vendredi soir. Vous sortez de votre semaine, vous avez envie de relâcher, vous avez envie de préparer le week-end, vous avez les enfants, il y a plein de choses. Donc c'est une lutte, moi je le dis franchement. Il m'est arrivé, et je l'ai dit à plusieurs reprises, quelque part il m'est arrivé parfois d'y aller à reculons, allez, disons-le, fatigué mentalement, vous sortez du boulot, bon. Et en fait, combien de fois j'ai pu dire à Nathalie, en fait, 2 heures plus tard, vous ressortez, waouh, c'est une énergie incroyable. Et je crois que ça, c'est la richesse de la parole de Dieu, c'est la richesse de la communion fraternelle. Je voudrais insister aussi sur un des éléments qui est probablement, j'essaie de résumer les éléments les plus marquants. Je crois que c'est la richesse de la diversité qu'il y a dans un groupe de quartier. Quand vous êtes au travail, vous êtes dans un milieu, par exemple, et je parle du vendredi soir parce que c'est la fin d'une semaine, finalement, et nous, c'est le vendredi. Vous êtes dans un milieu, un environnement, vous pensez tous pareil, vous êtes tous dans des mêmes problématiques, vous utilisez tous les mêmes mots, bref, c'est toujours la même chose. Quand vous êtes dans un groupe de quartier, c'est la richesse, vous allez obtenir cet échange qui va vous éclairer sur des passages de la parole, sur peut-être des difficultés que certains peuvent aussi vivre, des joies, etc., que vous n'auriez jamais perçues. Donc c'est un enrichissement qui vous aide à grandir, qui m'aide à grandir, moi, qui m'ouvre les yeux. Et nombre de fois où j'ai pu, à la suite d'un groupe de quartier, avec quelques réflexions très très courtes, très très simples, qui vient d'un membre à un moment donné, et qui me trotte dans la tête plusieurs jours dans la semaine après. Et j'ai envie de dire que ça, je le vis peut-être encore plus que quand je sors d'un culte. C'est-à-dire que le groupe de quartier, parfois, va me laisser des pensées qui vont m'inciter à réfléchir, à creuser certains sujets. Et je trouve que cette richesse, ce bénéfice qu'on a, c'est assez fantastique. Néanmoins, je crois que, oui, c'est vrai, ça reste une lutte aussi. Moi, je voudrais vous encourager les uns et les autres, à participer. Et j'ai envie de dire, peut-être aussi, il ne faut pas le voir comme un engagement qui doit être systématique, absolu, etc. Peut-être on se met aussi la barre parfois très haut. Il y a beaucoup de liberté, donc on peut participer aussi de temps en temps. Idéalement, c'est bien quand on arrive à venir le plus régulièrement possible, parce que ça permet vraiment de se connaître, de s'encourager, de partager de façon un peu plus intime les choses qui nous concernent. Comme le disait Stéphane, avec un groupe de 10 personnes, c'est assez facile. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à réfléchir. Ne considérez pas que les luttes que vous avez sont les vôtres seulement. C'est vraiment les luttes de chacun, de tous. Donc saisissez les opportunités. En tout cas, moi, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je fais aussi modestement, parce que ça reste un combat. On a nos fatigues, on a nos contraintes. Chacun, à chaque âge, à chaque période de la vie, on a des contraintes d'ailleurs différentes. Mais en tout cas, c'est vraiment une occasion de grandir et de prendre un rôle actif. C'est peut-être le dernier point que je soulignerai. On n'a pas l'occasion dans une grande assemblée nécessairement, où on ne sait pas trop comment trouver sa place. Dans un groupe de quartier, c'est assez simple aussi de pouvoir prendre un rôle actif. Le fait de prendre un rôle actif, moi en tout cas ce que je constate, permet d'avoir un ancrage plus fort de ce qui ressort du groupe, du partage de la parole. Ça vous nourrit plus vraiment de façon intense, et comme je le dis encore, souvent plusieurs jours après, vous continuez à réfléchir à ces échanges qu'on a pu avoir parce qu'un mot vous a marqué, parce qu'un passage, un verset sur lequel quelqu'un a réagi de telle ou telle façon que vous n'aviez jamais vu, vous a éclairé, vous a fait du bien, vous incite en tout cas à rechercher la présence du Seigneur. Voilà. Donc, merci, et puis bon groupe de quartier alors dans les mois qui viennent. Hein.
Alors bonjour à tous. Donc nous, on voulait témoigner sur nos groupes de quartier aussi, comment on le vivait. Donc personnellement, je suis à SMH Mairie. Donc ce qui est bien dans ce groupe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, mais pas que. Donc c'est des moments vraiment où on peut partager ensemble avec des personnes vers qui on n'aurait pas forcément eu l'occasion d'aller dans le contexte du culte du dimanche. On est tellement nombreux, c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment des échanges très riches. Et de partager la parole tous ensemble sur des passages qu'on n'a pas forcément le temps de voir au culte, parce que c'est une fois par semaine, donc on ne peut pas tout voir. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est partager des sujets de prière. C'est un cadre beaucoup plus intimiste, donc on apprend plus à se connaître, on partage plus de choses. Et c'est vraiment tellement, tellement enrichissant de connaître aussi les problèmes des autres, de voir qu'on n'est pas seul, comme disait Michel tout à l'heure. Et on peut vraiment partager des choses bien plus fortes que dans un groupe à 200 à l'église, quoi. Donc voilà, je vous encourage tous aussi à venir au groupe de quartier.
Donc moi, j'avoue, ça fait pas très très longtemps que je fréquente le groupe de quartier. Mais en fait, depuis que j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'on se connaissait quand même relativement peu. Ou du moins, avec les jeunes, bon, on se connaît peut-être un petit peu plus, mais les autres, pas tant que ça. Et en fait, le groupe de quartier, c'est l'occasion de partager un peu plus sur nous personnellement, ce qui n'est pas forcément possible dans l'église. Le dimanche matin, tellement on est nombreux, et de prier les uns pour les autres, de s'encourager, de partager nos galères, mais nos joies aussi du quotidien, et puis de s'encourager. Nous, je sais que dans notre groupe de quartier, c'est un moment que j'aime beaucoup, c'est quand on partage notre témoignage, comment Dieu a changé notre vie, et je trouve ça hyper encourageant, et on n'a pas forcément la possibilité de le faire dans des réunions qui sont si grandes que le dimanche matin. Donc ouais, je vous encourage vraiment à participer. Ça permet de créer des liens avec des gens, comme l'a dit Louise, qu'on n'aurait pas l'habitude de connaître. Et ça permet aussi de mieux se connaître et de louer Christ ensemble.
Merci beaucoup à tous les trois. Pour conclure, avec les anciens, nous sommes persuadés, au vu de la croissance numérique de notre assemblée, que le fait de vivre le culte est devenu complètement insuffisant pour vivre l'Église. Si vous voulez vraiment vivre l'Église en 2018 de notre Assemblée, alors cela passe par les groupes de quartier, parce que c'est dans ce cas